Bonjour à tous, aujourd'hui enquête sur le logement à Marseille, 4 mois après le drame de la rue d'Aubagne. Une pluie d'arrêtés de péril, de nombreuses personnes évacuées, des personnels municipaux au bord de la crise de nerfs et des soupçons de collusion entre la municipalité et des marchands de sommeil. Vous allez nous dire où on en est précisément, Laetitia Chérel, bonjour.
Bonjour.
Et puis, comme chaque mois, nous recevrons la médiatrice de Radio France, Emmanuelle Davier, et avec elle, nous reparlerons des gilets jaunes et des prothèses mammaires texturées qui sont soupçonnés de donner le cancer.
France Inter. Secret d'info. Jacques Monin.
La colère contre le logement indigne à Marseille ne faiblit pas.
J'ai un ami à moi qui est mort dans un immeuble, 65 rue d'Aubagne. Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, et aussi pour tous les autres.
Tous les autres, ce sont les évacués des dizaines d'immeubles qui ont fait l'objet d'un arrêté de mise en péril. À Marseille, plus de 2000 personnes se trouvent aujourd'hui sans logement.
Voilà, ça c'était un reportage de France 3 Provence Alpes Côte d'Azur à l'occasion d'une nouvelle manifestation contre le logement insalubre qui a eu lieu en février dernier, c'est-à-dire 3 mois après l'effondrement de 2 immeubles en plein centre de Marseille. Alors c'est vrai qu'on reproche souvent aux journalistes de délaisser les sujets quand ils ne font plus la une. Eh bien nous allons, nous, justement, aujourd'hui, retourner dans la cité phocéenne pour voir où en sont les choses. Mais ce qu'on va peut-être d'abord préciser, hein, Laetitia Chérel, c'est que si des marchands de sommeil ont pu ainsi prospérer dans cette ville, eh bien c'est notamment parce que beaucoup de personnes y vivent avec très peu de ressources.
Ah oui, 18% des Marseillais vivent en dessous du seuil de pauvreté, un seuil qui peut aller jusqu'à 30% dans le centre-ville et même 60% derrière la gare Saint-Charles. Des quartiers qui, comme l'explique Florent Houdemont, le directeur régional de la Fondation Abbé Pierre, ont une très forte concentration de logements en mauvais état.
Rien qu'à Marseille, on en compte plus de 40 000. Donc on voit que c'est plus de 10% du parc immobilier ici qui est potentiellement indigne, notamment en plein cœur du centre-ville. Et à l'inverse, les populations les plus aisées préfèrent vivre en périphérie de la ville, dans des villages provençaux très très beaux, mais qui du coup créent pour Marseille une double difficulté. Elle concentre la misère et elle n'a pas toujours les ressources fiscales pour mener les politiques pour y faire face.
Oui, donc on est dans une situation inversée par rapport à beaucoup de villes de France où le centre est généralement plutôt riche et où les pauvres sont rejetés vers la périphérie. Et puis l'autre paradoxe, Laetitia, c'est que dans ces quartiers pauvres du centre, eh bien on trouve très peu de logements sociaux.
Oui, 5% seulement. La plupart des immeubles appartiennent à des privés qui gèrent parfois un parc extrêmement dégradé, soit parce que ses propriétaires n'ont pas les moyens de les entretenir, soit parce qu'ils ne veulent pas faire les travaux nécessaires.
Oui, ça c'est donc pour le constat. Maintenant, il faut préciser que depuis la catastrophe, Laetitia, la mairie a quand même réagi. Elle a pris une succession d'arrêtés de péril, ce qui a contraint des locataires à évacuer les logements, en tout cas les logements les plus dangereux.
Oui, il y a eu comme un vent de panique hein, au sein des services municipaux. Pour vous donner une idée, en 4 ans, on avait pris 180 arrêtés de ce type. Et là, rien qu'en 4 mois, la ville en a signé 212. C'est dire si brusquement elle a pris la mesure de la situation. Enfin, disent certains, parce que beaucoup tiraient la sonnette d'alarme depuis longtemps, à l'image de Florent Houdemont.
On a comme ça plein d'exemples d'immeubles évacués récemment avec arrêté de péril où on est surpris parce que c'est des immeubles qu'on connaissait. Nous-mêmes, la Fondation Abbé Pierre, on accompagnait des familles et pour certaines, ça fait des années qu'on demandait aux services d'hygiène ou aux propriétaires d'intervenir et de faire des travaux. Rien ne bougeait. D'où voilà cette situation aujourd'hui avec pas loin de 1900 ménages qui ont été évacués depuis le drame.
Ouais, parmi ces personnes évacuées, vous avez rencontré une riveraine qui, elle, vivait juste à côté d'un des immeubles qui se sont effondrés.
Oui, et son exemple illustre bien ce qu'on vient d'entendre. Elle s'appelle Neyma Elberda et elle vivait dans un immeuble qui appartenait à la ville et pas à un privé. Elle alertait en vain depuis un an Marseille Habitat, la société d'économie mixte propriétaire de son immeuble, parce qu'elle avait des problèmes de fuite d'eau.
C'était une fuite déjà à la salle de bain. Il m'a fallu que je me lève 3 ou 4 fois la nuit pour vider le seau. J'ai pris une vidéo.
L'eau qui goutte du plafond et il y a une bassine
remplie. J'ai envoyé des courriers recommandés à Marseille Habitat. La seule réponse, on m'a dit, oh madame, on va s'en occuper. Ils sont venus 2 fois. Et la troisième fois, on m'a dit, on va s'en occuper. C'était février 2018. Et je les ai rappelés encore en septembre.
Il n'y avait pas eu de travaux ?
Non, d'accord. Pas du tout, rien.
Oui, des personnes dans ce cas-là, Laetitia, ben, il y en aurait beaucoup.
Oui, c'est en tout cas ce que m'a assuré Kauter Ben Mohamed, la fondatrice du collectif Marseille en colère, créé juste après la catastrophe de la rue d'Aubagne.
Je reçois des dizaines de personnes tous les jours et ces personnes, effectivement, ont à plusieurs reprises interpellé les pouvoirs publics, interpellé les bailleurs lorsqu'ils sont sociaux et privés pour dire que leur appartement était insalubre, que tout s'est frité et rien n'a été fait. Et c'est effectivement le résultat d'une politique d'abandon qui a été menée depuis 30 ans. Les bailleurs sociaux et les pouvoirs publics et les propriétaires privés n'ont pas fait leur travail.
Ils n'ont pas fait leur travail, disent les associations. Alors, il y a quand même eu des rénovations réussies, hein, faut le reconnaître. Mais c'est vrai que pour d'autres, ça a été un peu n'importe quoi.
C'est un peu ce qui s'est passé, par exemple, rue Tubano, toujours dans le centre de Marseille, là où habitait Alice Véziès. Elle alertait le propriétaire et le syndic depuis des mois sur des fuites d'eau et des fissures dans l'immeuble. Et rien ne se passait, jusqu'à ce qu'en août 2016, deux enfants passent à travers le plancher du premier étage.
Je rentrais avec mon copain et à deux minutes près, on a failli se prendre le plafond sur la tronche. Il y avait encore la poussière qui stagnait dans l'air, donc vraiment ça venait de tomber. Et donc il y a deux enfants qui habitaient au premier étage, qui sont passés à travers le plancher et qui ont fait une chute de 6 mètres, qui ont atterri dans les escaliers du hall d'entrée. Ils sont pas morts, ils ont survécu à ça, ils sont traumatisés psychologiquement. Il s'ensuit tout de suite un défilé avec les pompiers, les experts et donc l'arrêté de péril imminent et grave qui tombe dans la foulée. On est évacué. Et donc, ils nous disent, voilà, tant que les travaux ne sont pas faits, vous ne pouvez pas réintégrer l'immeuble.
Ouais, les travaux seront finalement faits. On autorisera les locataires à revenir. Sauf qu'ils ne sont pas au bout de leur surprise, ces locataires.
Ah non, parce qu'il semble que les travaux aient été faits trop rapidement. Je suis allée voir sur place avec Alice Véziès et elle m'a raconté ce que sa voisine, Faten Kanzari, a vécu.
Ce que Faten m'avait dit, c'est qu'elle avait constaté qu'un mois après avoir réintégré l'appartement, au niveau de la plinthe, le carrelage était collé quand elle est arrivée. Un mois après, il y avait à peu près un centimètre au bout et on le voit. Mm-hmm. Et puis plus on avance vers les bouteilles, là, plus on voit que c'est écarté et qu'en fait, ça se réaffaisse au niveau du trou.
Et sur place, moi, j'ai pu voir qu'il y a des fissures partout dans l'immeuble. Et dans certaines, on peut quasiment y passer la main. Au dernier étage, un bout du plafond s'est écroulé. Et je dois vous dire que j'ai même eu peur que les paliers s'effondrent.
Et les gens habitent quand même là ?
Alors non, hein, parce que depuis le drame de la rue d'Aubagne, cet immeuble fait partie de ceux qui ont été frappés d'un arrêté de péril.
Ouais, donc les habitants ont été évacués. Mais comment le propriétaire, lui, justifie que son immeuble soit resté dans un tel état malgré les travaux ?
Alors je l'ai contacté, mais il ne m'a pas répondu. Quant au syndic, il m'a dit que 170 000 euros avaient été investis en travaux en 2012 et que d'autres travaux avaient été faits en 2016. Mais il estime que si l'immeuble est dégradé, c'est d'abord à cause de la négligence des locataires.
Donc il dégage en touche, comme on dit. Bon, cela dit, et quelle que soit la responsabilité, on voit que là, il s'agit effectivement de privé, mais ça pose quand même aussi la question de la non-réaction des pouvoirs publics, non ?
Alors effectivement, car il faut savoir que la mairie peut prendre des arrêtés d'insalubrité pour contraindre des propriétaires à faire des travaux quand c'est nécessaire. Ces arrêtés sont ensuite transmis à la préfecture. Or, jusqu'à la catastrophe de la rue d'Aubagne, la préfète Marie-Emmanuelle Assidon en recevait très peu, voire pas du tout.
Les services de la ville de Marseille ne m'ont transmis aucun dossier en 2016, 18 dossiers concernant 18 logements donc en 2017 et 5 logements en 2018. Donc ce total de 23 logements m'interroge, soit l'intervention de la ville a permis de résoudre la situation, et c'est tant mieux, soit ça n'a pas été le cas, c'est ce sur quoi j'ai interrogé la ville à plusieurs reprises de manière insistante, j'attends toujours une réponse.
Ouais, elle attend toujours, d'où ce soupçon d'inertie, qui semble d'ailleurs être confirmé par ce que vous a dit par ailleurs un urbaniste.
Oui, il s'appelle Emmanuel Patrice et il a travaillé 8 ans à la Soleam, la société d'aménagement de la métropole de Marseille. Et il m'a expliqué qu'en cas d'urgence, quand les propriétaires sont défaillants, la ville peut financer des travaux. En 2014, elle avait bien prévu une enveloppe pour intervenir sur ces travaux d'urgence, mais seulement 15% de cette somme avait été utilisée.
J'ai rencontré des opérateurs qui ont été mandatés récemment par la ville de Marseille pour intervenir sur ces travaux d'office sur plusieurs années, 4 ans. Sauf qu'on se rend compte que malgré l'existence de ce marché, ils ont été pratiquement jamais sollicités et ils ont utilisé à peu près 15% de leur marché alors qu'une enveloppe a été attribuée dès le départ pour intervenir. Donc on se demande qu'est-ce qui se passe, quoi. C'est-à-dire qu'on a un service qui enfin se dote de moyens d'action via des appels d'offres et via donc, des entreprises et des bureaux d'études pour intervenir, et elle n'actionne pas ce marché-là.
Mais pourquoi elle ne l'a pas actionné, Laetitia ? Qu'est-ce qu'on vous dit à la ville là-dessus ?
On explique que la sous-utilisation de ce budget viendrait d'une part du faible nombre de signalements d'immeubles insalubres à l'époque. D'autre part, de ce que les travaux auraient été faits par les propriétaires privés eux-mêmes. Mais on peut légitimement douter de ces affirmations vu le nombre d'arrêtés de péril pris depuis le 5 novembre.
Ouais, 212 en 4 mois, on le rappelle, hein, c'est pas rien. Et ces négligences dans la politique du logement à Marseille, eh bien, elles ont été formellement établies.
Oui, un rapport les a sévèrement épinglées en 2015. Rapport rédigé par Christian Nicole, qui était un ancien inspecteur général honoraire de l'administration. Lui aussi a constaté à l'époque que la ville laissait faire les propriétaires défaillants.
La ville menait des politiques traditionnelles d'amélioration de l'habitat basées sur l'incitation, c'est-à-dire d'obtenir des subventions majorées pour les propriétaires qui décident de faire les travaux dans leur logement. Mais à côté de ça, quand on est confronté à l'habitat indigne, il faut aussi pouvoir effectivement utiliser le bâton, c'est obliger les propriétaires à faire des travaux. À Marseille, ces procédures, c'est ce qu'on a constaté tout de suite, elles étaient mises en œuvre au compte-gouttes, vraiment quelques arrêtés de péril ou d'insalubrité, rien ou très peu par rapport à l'ampleur du problème.
Ouais, donc il est assez critique en 2015, on le rappelle, Christian Nicole. Et à la mairie, qu'est-ce qu'on répond à ça ?
J'ai posé la question au maire Jean-Claude Gaudin lors d'une conférence de presse et écoutez ce qu'il m'a répondu.
Bon, d'abord, le rapport Nicole, il s'adressait aussi à l'État et pas qu'à la ville, et c'était une fumisterie. Ce monsieur est venu passer quelques jours à peine à Marseille. Nous lui avons donné tous les documents que nous avions en notre possession. Nous avons tout donné à ce monsieur Nicole qui nous a pourris. Mais ça arrive, ça, dans la vie. Nous n'avons peut-être pas tout fait, c'est l'évidence même, mais nous avons fait beaucoup de choses. Je vous rappelle que ces copropriétés indignes sont totalement et toujours des copropriétés privées.
Ouais, donc on n'est pas responsable, c'est le privé qui l'est, hein, c'est ce qu'on entend, et le rapport Nicole ne serait qu'un tissu de mensonges. Sauf que là où on peut quand même s'interroger, Laetitia, c'est qu'il existe un autre rapport qui dénonce lui aussi l'inertie de la ville.
Oui, c'est un rapport de l'Agence régionale de santé cette fois, qui date de septembre dernier et qui a été publié dans Le Monde. Ce rapport sans concession pointe lui aussi de graves dysfonctionnements dans la gestion des immeubles délabrés. Nous en avons fait lire un extrait. Bien qu'il y ait eu 6 recrutements dans le service d'hygiène de la ville, ils n'ont apparemment servi à rien.
L'activité du service en matière de procédure d'insalubrité s'est effondrée. Il n'y a eu aucun arrêté d'insalubrité en 2016. Les populations les plus précarisées sont trop souvent maintenues dans des immeubles dangereux pour leur santé et leur sécurité.
Bon, mais là, on a envie de comprendre, Laetitia. Qu'est-ce qui explique cette inertie ?
Eh bien, pour essayer de le comprendre, je me suis d'abord rapprochée de plusieurs employés municipaux. Des employés qui sont aujourd'hui sous le feu des critiques et qui vivent très mal cette situation. Eux sont conscients des carences de leur service. Écoutez ce que m'a confié l'un d'eux sous le sceau de l'anonymat et avec les larmes aux yeux. Nous avons aussi fait lire ces propos par un journaliste.
On n'est pas assez nombreux, juste une quinzaine. La mairie pourrait faire des travaux d'office quand les propriétaires ne les font pas. C'est prévu par la loi. Mais c'est lourd, ça prend du temps. On n'en a fait qu'une dizaine en 2 ans. C'est comme les poursuites judiciaires. Ce sont des dossiers très compliqués à monter juridiquement. Le problème, c'est qu'on n'est pas formé et que, jusqu'aux effondrements, on n'avait même pas de juriste dédié à ça.
Pas de juriste dédié aux poursuites contre les marchands de sommeil. Et là-dessus, Jean-Claude Gaudin, il vous dit quoi ?
Ce qu'on a entendu tout à l'heure, il estime que la ville a déjà fait beaucoup et que c'est avant tout une affaire de propriétaires privés.
Ouais, sauf que ce qu'il faut aussi signaler, Laetitia, c'est que parmi ces propriétaires privés, eh bien, on trouve certains élus, y compris de la ville de Marseille.
Oui, et grâce à nos confrères marseillais, on s'est aperçu que des élus étaient propriétaires de taudis ou d'appartements situés dans des immeubles insalubres. Et parmi eux, Xavier Cachard, Gérard, élu Les Républicains au conseil régional, il avait un appartement dans l'un des deux immeubles qui se sont effondrés rue d'Aubagne et il a dû démissionner.
Et il ne serait donc pas seul dans ce cas-là ?
Non, récemment, le journal La Marseillaise a aussi révélé que l'adjoint au patrimoine de la ville de Marseille, André Malret, 87 ans, louait un local à moto de 17 mètres carrés, 520 euros par mois. Local qu'il a d'ailleurs réussi à transformer en habitation grâce à une autorisation signée de la main même de Jean-Claude Gaudin. Le problème, c'est que 3 mois après avoir emménagé, la locataire Jennifer Embon a vite déchanté, comme nous le raconte son avocate Julie Savy.
Jennifer s'est rendue compte que l'appartement était extrêmement humide. Elle a vu s'installer l'humidité carrément entre les joints du carrelage, dans ses chaussures, sur ses vêtements, sur les étagères de sa cuisine, à des endroits où normalement il n'y a pas d'humidité. Donc c'est vite devenu invivable, elle a commencé à avoir des plaques qui sont apparues sur sa peau. Elle a fait un signalement, je crois, sur le site de la ville de Marseille, indiquant le caractère du logement dans lequel elle se trouvait.
Ouais, donc là, il y a quand même un sérieux problème. Et le propriétaire, il en dit quoi ?
J'ai contacté sa femme, Bérangère Malret, au téléphone, et elle renvoie la faute sur la locataire.
Alors, je vais vous dire, en 10 mois, elle n'a jamais ouvert les fenêtres ni relevé son store. Elle a mis le chauffage à fond, et donc, les moisissures ont commencé depuis septembre.
Elle dit qu'il n'y avait aucune aération, pas de ventilation.
Alors, c'est vrai qu'il n'y avait pas de ventilation, mais à Marseille, dans le midi, on ouvre les fenêtres tout le temps, tout le temps.
Et c'est les prix, 520 euros par mois pour 17 mètres carrés ?
Ah oui, dans notre quartier, c'est le quartier le plus résidentiel de Marseille, le 8e. Elle était bien contente de trouver un petit logement si elle n'avait pas été contente d'être partie.
Alors justement, la locataire vient de déménager et elle a envoyé une mise en demeure à ses propriétaires pour se faire rembourser ses loyers.
Ouais, donc le contentieux n'est pas clos et il y aurait donc encore d'autres élus qui louaient des logements en mauvais état.
Oui, on peut encore citer Thierry Santelli, un élu Les Républicains du département, adjoint de Jean-Claude Gaudin. Lui aussi connaît bien le dossier de l'habitat insalubre puisqu'il est également administrateur de Marseille Habitat, l'organisme qui lutte contre l'habitat dégradé. Ouais. Écoutez Julien Vinzan, journaliste au site d'information en ligne Mars Actu qui a révélé l'affaire.
On a découvert un arrêté de péril sur un immeuble où Thierry Santelli a un appartement. À ce moment-là, il a un peu noyé le poisson, c'est-à-dire qu'il a expliqué que ce n'était pas son appartement à lui, que son appartement, il n'y avait aucun problème, il l'avait racheté en 2014, il avait fait des travaux, sa locataire s'était jamais plainte, etc. En réalité, sa locataire s'était bien plainte. Et elle avait fini par obtenir le classement comme indécence de son appartement. En dessous de la fenêtre, c'est moisi, l'aération n'est pas conforme. Bref, les travaux qu'il a justement fait quand il a racheté ont été mal faits. Il y a pas mal de choses qui font que la locataire a fini par s'en plaindre.
J'ajoute enfin qu'un 4e élu, Bernard Jacquier, vice-président de la métropole de Marseille et avocat en droit immobilier, louait lui aussi un logement dans un immeuble frappé d'insalubrité. Et lui aussi a dû démissionner.
Bon, et tous ces élus, comment ils justifient ce qu'on vient d'entendre ?
Un seul a répondu à mes questions, c'est Xavier Cachard, l'élu qui possédait un appartement de la rue d'Aubagne. Il dit qu'il ne se sent pas encore prêt pour évoquer la tragédie et précise que seul l'immeuble était visé par un arrêté de péril et pas son appartement. Les autres n'ont pas répondu à mes messages malgré plusieurs relances.
France Inter. Secret d'info, Jacques Monin.
Bien, alors maintenant qu'on a vu qu'à Marseille, de nombreux propriétaires privés laissent leur logement se dégrader, eh bien on va voir Laetitia Chérel, que la ville, elle aussi, possède des immeubles en très mauvais état.
Oui, parce qu'il faut savoir que Marseille est propriétaire de nombreux immeubles qui sont tout aussi délabrés que ceux dont on a parlé jusqu'ici. Ils faisaient partie de plans de rénovation dans les années 2000, et comme les propriétaires n'ont pas fait les travaux, eh bien la ville les a expropriés et elle les a récupérés.
Oui, mais alors là, pour le coup, elle a fait son boulot, elle s'est substituée au privé défaillant, non ?
Oui, sauf qu'elle n'a pas toujours trouvé d'acheteur qui puisse les rénover. Elle en a donc un certain nombre sur les bras, et du coup, ces immeubles sont comme laissés à l'abandon et se dégradent. Écoutez Noureddine Abouakil, le cofondateur de l'association Un Centre-Ville pour Tous. Il nous fait visiter les 1er et 2e arrondissements de Marseille, où nous avons vu une vingtaine de ces immeubles.
Là, nous nous trouvons à la rue Bernard Dubois.
Là, on est devant donc quatre immeubles qui sont tous murés, tagués.
Oui. Alors, ces quatre immeubles ont été expropriés en 2000. Ils devaient être rénovés, ils ne le sont pas. Ils sont très dégradés. Il y a des plantes qui poussent sur les façades, ce qui fragilise les façades sur plusieurs années.
Il y a des bouts en fait de l'immeuble qui tombent.
Oui.
Il y a aussi le contour des fenêtres en pierre qui s'effrite.
Et ce sont des immeubles qui sont propriété de la ville de Marseille depuis 18 ans.
Alors, difficile pour le moment de savoir combien d'immeubles sont concernés. Il y en aurait plusieurs dizaines à Marseille.
Oui, donc on laisserait se dégrader une partie du patrimoine public. Et la conséquence de tout ça, Laetitia, c'est qu'au final, lorsqu'on finit par les vendre, ces immeubles, bah parfois on les brade.
Oui, c'est vrai que certains de ces immeubles ont été vendus par la ville jusqu'à 3 fois en dessous de leur prix d'achat. Un exemple, un immeuble de 400 mètres carrés, place de Lanche, une des plus belles de Marseille, avec vue sur le Vieux-Port. Eh bien, cet immeuble a été vendu en octobre 2018 pour un prix dérisoire. C'est ce que dénonce Benoît Payan, le chef du groupe socialiste à la ville de Marseille.
Un immeuble qu'on a payé 750 000 euros, qu'on revend quelques années 250 000 euros, il y a quand même un scandale derrière tout ça. On achète en 2006, 2007, 2008, 2011, 2012 des immeubles et on les laisse se dégrader. Et on les laisse finalement prendre la pluie, on les laisse pourrir. Et à la fin, qu'est-ce qui se passe? On avait un patrimoine, on n'en a plus. Et à la fin, on revend. Moitié prix, tiers de prix, quart de prix.
Des exemples comme celui-ci, il y en a d'autres. Par exemple, cet immeuble acheté 500 000 euros dans le quartier populaire de Belzunce a été revendu l'an dernier 88 000 euros, 3 fois moins que le prix évalué par les domaines.
Bon, mais là aussi, on a envie de comprendre, Laetitia. Comment c'est possible? Pourquoi la ville les vend ainsi à perte?
Alors, difficile de répondre, mais ce qui est sûr, c'est que ça ne date pas d'hier. En 2013 déjà, la Cour des comptes épinglait dans un rapport ses ventes quasiment à perte, et notamment dans cet extrait que nous avons fait lire.
La vente à des prix inférieurs au jeu du marché par la ville à partir de 1996 pourrait certes apparaître normale pour ce type d'opération. En effet, les reventes à des opérateurs de logements sociaux se font traditionnellement en dessous des prix de marché. Mais seulement 25% des reventes ont été faites pour réaliser des logements sociaux dans le centre-ville. Ce n'est donc pas la revente à des opérateurs de logements sociaux qui explique la faiblesse du montant des reventes, mais plutôt le choix de la ville de minorer les prix de revente aux investisseurs pour des raisons de fluidification du marché.
Fluidification du marché, c'est-à-dire ?
Eh bien, ce qu'on comprend, c'est que la ville préférait laisser la main aux propriétaires privés et laisser le marché gérer ses logements.
Oui, donc le résultat, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Un parc locatif délabré et dangereux, des immeubles parfois vides. Mais alors, ça rime à quoi tout ça, Laetitia? Pourquoi est-ce que la mairie laisse ainsi se dégrader son centre-ville?
Alors, j'ai posé la question à André Jolivet, un architecte marseillais à la retraite, ancien président du Conseil régional de l'Ordre des architectes, et lui avance plusieurs éléments de réponse. Le premier, c'est une explication électoraliste. Parmi les propriétaires indélicats, il y a, on l'a vu, des grandes familles et des notables qu'on voudrait ménager.
Beaucoup de ces propriétaires sont ses électeurs, font partie de sa base électorale. En conséquence, on veut garder cette base-là et on ne veut pas les forcer à faire des travaux qui seraient nécessaires sur ces immeubles. On ne gêne pas les amis. C'est vrai que pour être maire de Marseille, il faut gagner certains secteurs. Il y en a 8, 3 suffisent pour être maire de cette ville. Voilà, donc c'est le reflet d'une politique très clientéliste à Marseille.
André Jolivet pense aussi que la mairie aurait pu être tentée de laisser pourrir ses logements pour que leurs occupants s'en aillent d'eux-mêmes et qu'elle puisse renouveler la population du centre. Un avis partagé par de nombreuses associations que j'ai rencontrées.
Ouais, en tout cas, et quoi qu'il en soit, les choses ne resteront pas en l'état puisque ça bouge. L'État, par exemple, n'a plus l'intention de laisser faire et il a décidé de forcer la main à la ville.
Oui, il considère que la ville est défaillante. La préfecture a donc pris un arrêté imposant qu'on inspecte 6000 logements qui inquiètent à Marseille. Et puis de son côté, la métropole de Marseille a décidé d'instaurer un permis de louer. Alors concrètement, on ne donnera le feu vert pour louer qu'après la visite d'un expert. Cette mesure a été mise en place dans le centre-ville, c'est expérimental et ça devrait commencer en octobre prochain.
Oui, quelque chose me dit qu'on n'a pas fini de parler de ce sujet. Bien, merci Laetitia Chirel. Alors je précise qu'on peut réécouter votre enquête sur franceinter.fr et sur l'appli France Inter. Vous pouvez également nous y faire part de vos commentaires, tout comme vous pouvez le faire d'ailleurs sur la page Facebook de la cellule Investigation de Radio France ou sur Twitter Investigation RF. Mais restez avec nous. Dans quelques instants, nous recevrons la médiatrice de Radio France et avec elle, on va parler des sujets qui vous ont fâché. Une voix très particulière, une ambiance 60s réverbérée, c'était Polly Blue, extrait du dernier album de Jessica Pratt, la chanteuse de San Francisco.
Secret d'info, Jacques Monin, sur France Inter.
Alors nous recevons maintenant, comme chaque mois, la médiatrice de Radio France. Bonjour Emmanuel Davier.
Bonjour Jacques Monin.
Alors vous relayez les critiques des auditeurs pour que nous puissions y répondre. Et apparemment vous avez reçu pas mal de mails concernant l'enquête que nous avions réalisée sur le rôle de l'extrême droite dans le mouvement des Gilets jaunes.
Oui, beaucoup de mails. On commence avec les remarques de Quentin. En écoutant ce reportage, écrit Quentin, je me demande dans quelle mesure les opinions politiques du journaliste influencent l'angle du reportage. En effet, je ne vois pas en quoi aller sur le terrain à la rencontre des Français et de leurs revendications est taxé de récupération. N'est-ce pas justement le rôle des élus de prendre en compte l'avis des citoyens et de s'appuyer dessus pour mener une politique en adéquation avec l'intérêt général?
Alors si, on peut dire que le rôle des politique, c'est effectivement d'aller sur le terrain et d'écouter ce que dit la population, ça j'en conviens. Mais le rôle du journaliste d'investigation, c'est aussi d'aller voir ce qu'il y a derrière les apparences. Et c'est vrai que, on l'a constaté, et là ce sont des faits, le Rassemblement National était présent sur le terrain, mais ça va beaucoup plus loin, avait même théorisé la manière dont il devait être présent sur le terrain pour pouvoir accompagner ce mouvement sans pour autant se faire rejeter. Ça passe d'abord par un positionnement qui est, et ça c'est le Rassemblement National qui le dit, assez subtil, c'est-à-dire être présent mais ne pas afficher ses opinions politiques, ne pas non plus s'afficher dans les médias pour ne pas être taxé de récupérateur, mais On cultive même un double langage, puisque sur le terrain, il y a un certain nombre de thématiques que les élus mettent volontairement de côté pour ne pas se faire rejeter. Par exemple, on ne parle pas d'immigration. L'immigration, c'est une thématique qui fait partie de la rhétorique du Rassemblement national. Et on va le faire quand même sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire sur d'autres canaux. Bon, c'est intéressant, c'est notre rôle de décrypter la manière dont les choses se passent. Après, vous parliez du rôle du politique et de prendre en considération les aspirations des gens. C'est une évidence, mais ça pose quand même aussi là des questions particulières. C'est-à-dire, est-ce qu'un parti politique, c'est un parti qui est là pour proposer une vision de la société qu'il veut transformer conformément à ce que sont ses valeurs, ou est-ce qu'un parti politique, c'est un objet opportuniste qui va sentir l'air du vent, l'air du temps, pour récupérer ses revendications et ensuite les faire siennes, tout en sachant qu'il y en a un certain nombre qu'il ne pourra pas appliquer. Après, chacun se fera son opinion, mais là, c'est plus notre propos.
Sur le sujet, on termine avec la réaction de cet auditeur qui s'interroge « Est-ce bien honnête d'avoir cité dans votre introduction l'extrême gauche et l'extrême droite et de ne développer que l'extrême droite ou est-ce simplement votre obsession de désinguer encore Jean-Luc Mélenchon et les gens de son parti ?» Sans arrêt, on entend les extrêmes comme si Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, c'était le même combat.
Bon alors attention, on n'a pas d'abord cité l'extrême gauche et l'extrême droite en les mettant sur un pied d'égalité dans l'introduction. Ce qu'on a entendu, c'est un élu de terrain disant qu'effectivement lui sentait monter le mouvement des Gilets jaunes, qu'il essayait de prévenir ses collègues, y compris à gauche, qu'il ne sentait pas ce que lui ressentait, alors que le Rassemblement National, lui, avait même anticipé ce mouvement. Et c'est pour ça qu'on s'y intéressait, d'ailleurs, c'est pas une obsession anti-Front National, hein. C'est juste que quand vous regardez les faits, vous vous rendez compte que les autres partis sont passés à côté, en tout cas au départ. Même si ce mouvement, et je le répète et je l'affirme, n'est pas un mouvement d'extrême droite, et ça a été dit dans l'émission, c'est pas ça notre propos. Après, obsession de désinguer Jean-Luc Mélenchon, on ne va pas y revenir, on en a parlé 100 fois dans cette émission depuis une enquête qu'on avait consacrée effectivement à Jean-Luc Mélenchon. On enquête sur tout le monde, on n'a pas d'obsession particulière. Cela dit, on est sur un terrain de toute façon où quoi qu'on fasse, on sera l'objet de critiques. À partir du moment où on essaie d'investiguer sur un terrain politique, bah c'est extrêmement difficile de trouver la bonne mesure qui fasse qu'on soit dans l'exposition des faits et l'incitation à la réflexion de ceux qui nous écoutent, sans tomber effectivement dans l'opinion et dans l'orientation des opinions. Bon, autre sujet que vous souhaitez aborder, Emmanuel ?
Oui, alors on a reçu des remarques d'auditeurs, des témoignages sur votre enquête sur les implant files. Le témoignage notamment d'une auditrice porteuse d'une prothèse texturée, plusieurs fois changée depuis une reconstruction mammaire après un cancer découvert à l'âge de 35 ans. Voici ce qu'elle nous écrit. Je suis en colère d'entendre sur France Inter un témoignage, certainement poignant mais tout particulier. Le problème des prothèses texturées dont on parle en ce moment n'a pas à voir avec le risque d'une prothèse qui se rompt et qui diffuse du silicone dans le corps. Ce sont des problèmes différents. Avez-vous conscience de la bombe que vous lancez pour les 500 000 porteuses d'implants mammaires? Allez-vous leur proposer, après vous avoir entendu, de se rendre immédiatement chez leur chirurgien pour se faire retirer leur prothèse? L'information que vous avez diffusée à l'antenne est partielle et inutilement anxiogène.
Alors, il y a deux questions. Là, il y a la question d'abord de la rupture de la prothèse. Est-ce qu'effectivement, la rupture de la prothèse est la cause du lymphome? Et en fait, non, c'est pas la rupture de la prothèse qui est la cause du lymphome. Puis après, il y a la question de l'information anxiogène. Alors, sur la première question, Élodie Guéguin, puisque vous aviez travaillé sur ce sujet-là, si on a diffusé le témoignage de Laetitia, c'est parce que son lymphome, il est bien dû apparemment à la texture de sa prothèse et pas à l'accident qu'elle a vécu.
Oui, en fait, c'est vrai que le cas de Laetitia est très particulier parce que Laetitia a eu deux problèmes distincts mais simultanés. Laetitia, elle a d'abord reçu un choc dans la poitrine qui a provoqué une rupture de sa prothèse. Le silicone s'est répandu dans son corps, ce qui a causé chez elle d'intenses douleurs. Elle a dû prendre de la morphine, de l'opium. Elle a été suivie par des médecins. Et là, on a découvert qu'elle avait développé ce fameux lymphome, ce cancer qui touche désormais 59 personnes en France. On ne sait pas ce qui est à l'origine du lymphome, certainement pas la rupture de prothèse, mais en tout cas on n'a pas d'éléments aujourd'hui à ce stade. À ce stade, on ne peut pas dire ce qui cause le LHC.
Oui, mais ce qu'il faut voir, c'est que Laetitia, c'est un cas parmi d'autres. Il y a effectivement une soixantaine de femmes aujourd'hui en France qui ont contracté ce LHC. Il y a une forte suspicion pour que ce soit lié effectivement à la texture de leur prothèse mammaire. Alors, à partir de là, se pose la question de est-ce qu'il fallait en parler ou pas? Est-ce que 60 femmes sur 500 000, c'est suffisamment significatif pour effectivement faire peur aux gens? Parce que c'est ça la question qui est posée. Réponse, Élodie.
Écoutez, ça fait 10 ans qu'on parle de ce lymphome anaplasique en France. Les autorités sanitaires n'ont pas pris de décision pendant 10 ans d'interdire, pas d'interdire. Il a fallu quelque part les implant files auxquels on a participé pour mettre un peu ce sujet sur la table, pour le mettre en lumière. Donc oui, je pense qu'il fallait en parler, même si ça concerne très peu de femmes en France, pour peut-être faire avancer les choses. Et pour répondre aussi à notre auditrice qui dit « Est-ce que vous conseillez aux femmes d'aller voir leur chirurgien et pourquoi pas de se faire explanter ? Vous vous rendez compte que tout ça, c'est quand même très angoissant ?» Non, évidemment, l'idée, c'est pas de conseiller à ces femmes d'aller faire des explantations préventives parce qu'elles portent des prothèses mammaires allergantes. En revanche, de se faire surveiller. On a vu aussi dans le cadre de notre enquête que normalement, une femme qui porte des prothèses, que ce soit après un cancer ou pour des raisons esthétiques, doit se faire surveiller tous les ans. Et la plupart des femmes qu'on a rencontrées, elles n'étaient pas allées voir leur chirurgien depuis 5, 6, 7 ans.
Oui, puis on peut se dire que si effectivement au moment de la pose de la prothèse on leur avait dit, bah oui madame, il est possible que dans le pire des cas, il y ait un cas sur 3000 de lymphome, de cancer lié à la pose de ces prothèses, bah, ces femmes auraient pu effectivement faire leur choix en conscience, ce qui n'a pas été le cas jusqu'à maintenant. Alors qui a tort ? Celui qui révèle ou celui qui n'a pas informé ? Ça c'est une bonne question aussi Emmanuel, qu'on peut se poser. Bien, alors Emmanuel, on va peut-être en rester là pour aujourd'hui. On vous retrouve le mois prochain, donc début avril, pour de nouvelles interpellations de nos auditeurs qui d'ailleurs peuvent vous écrire, on peut le rappeler.
Oui, absolument, les auditeurs peuvent m'écrire à l'adresse mediatrice.radiofrance.fr et puis aussi ils peuvent s'abonner sur nos comptes Twitter, Facebook, Instagram pour retrouver toutes les informations sur la médiation à Radio France et donc peuvent m'interpeller autant qu'ils le souhaitent.
Parfait, merci beaucoup Emmanuel et à très bientôt. C'est la fin de Secret d'Info, une émission préparée par Martin Broyer, réalisée par Christophe Imbert, avec une programmation musicale signée Jean-Baptiste Audibert et à la technique Pierre-Yves de Rolin et Stéphane Boja. Dans quelques instants, Denis Chessoux recevra notamment Sébastien Boller qui se demande pourquoi notre cerveau nous pousse à détruire la planète. Vaste question. Je vous laisse méditer. Quant à moi, je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à samedi prochain.